Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes en direct jusqu'à 13h avec au sommaire de l'émission le retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat ce samedi, la vie ordinaire. La vie ordinaire, c'est le titre d'un livre passionnant que publie la philosophe Adèle Van Rhett. La vie ordinaire, c'est une réflexion qui fait écho à cette expérience pour le coup extraordinaire, celle que nous avons tous vécue pendant le confinement quand nous étions enfermés entre quatre murs, que les jours se suivaient, sans ressembler et n'en finissaient pas de se ressembler. Que faire de l'ordinaire dans nos vies, du quotidien, de ce degré zéro de l'existence? L'expression est toujours d'Adèle Van Rhett, qui est aussi la productrice des Chemins de la philosophie sur France Culture. Et c'est donc en voisine qu'elle viendra nous voir en studio à France Inter et elle sera notre invitée dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver tous les deux. Beaucoup de sujets à aborder, des sujets graves et bien sûr d'abord ce qui se passe aux États-Unis en ce moment même. L'onde de choc provoquée par le meurtre raciste de George Floyd aux États-Unis, tué en plein jour, en pleine rue, par un policier de Minneapolis. C'était le 25 mai dernier.
C'est terrible, c'est triste, j'en ai pleuré. Combien de policiers s'en tirent après avoir tué un Afro-Américain? Les gens en ont marre, il est temps que ça change, c'est le début du changement. Je parle de ça depuis 5 jours, mais je n'ai toujours pas les mots. Ça fait mal.
Je suis le président de la loi et de l'ordre, et l'allié de tous ceux qui veulent manifester pacifiquement. Mais ces derniers jours, notre nation a été la proie d'anarchistes professionnels. Nous allons stopper les émeutes et les actions illégales en cours dans ce pays. On va les stopper maintenant.
We will end it now. Et 12 jours après, la contestation continue, et vous l'entendiez dans le flash d'Alexandra Dubouchron, le ton martial de Donald Trump n'empêchera pas une nouvelle manifestation prévue cet après-midi dans la capitale américaine à Washington DC. D'autres auront lieu ailleurs dans le pays et dans le monde entier. Natacha Polony, quel regard portez-vous sur ce qui se passe aux États-Unis?
Je crois que ce qui est surtout frappant, c'est le fait que éclate là l'impossibilité, l'incapacité des États-Unis à sortir de ce problème. C'est-à-dire que l'élection d'un président noir n'avait apporté qu'un symbole. Barack Obama n'a pas réussi, a-t-il seulement suffisamment essayé de régler cette question, elle est en train de gangréner la vie américaine, avec en arrière-fond ce rapport très particulier aux armes qui existent aux États-Unis et qui là aussi rend les choses beaucoup plus compliquées, puisque le recours à la violence des policiers américains est quelque chose d'extrêmement spécifique, hein, qui est lié justement au fait que ils ont en tête l'idée que l'autre en face peut porter une arme, peut être dangereux. Il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement malsain. Et derrière ça, encore toute l'histoire de la ségrégation raciale. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le mouvement Black Lives Matter est en train de se confronter à ce qui est l'histoire du mouvement d'émancipation raciale aux États-Unis, c'est-à-dire une confrontation entre ceux qui pensent que finalement, il faut balayer le système et que rien ne viendra pacifiquement et qu'il faut une révolte, et ceux qui veulent demeurer pacifiques. Et on retrouve l'opposition entre Martin Luther King et Malcolm X qui se renoue aujourd'hui, puisqu'il y a un mouvement qui est en train de contester la dimension, non pas violente, mais en tout cas fortement révolutionnaire des manifestations. Il y a une fracturation. Et il va falloir regarder cela avec attention, parce que bon, on va en parler, mais ça a désormais un impact jusque chez nous.
On va y venir justement, à l'impact et à l'onde de choc planétaire qui est arrivée jusqu'en France et jusqu'à Paris notamment. Gilles Finkelstein.
Oui, il y a la dimension sociétale qu'a évoquée Natacha Polony, et il y a la dimension politique, et on a entendu le son de Donald Trump. Sur la dimension sociétale, je partage ce qu'a dit Natacha Polony en ajoutant parce qu'on les critique souvent, le rôle très positif qu'ont joué les réseaux sociaux une nouvelle fois dans cette affaire. Il n'y a pas de débat sur le crime lui-même, c'est un grand progrès. Les réseaux sociaux ont permis, parce qu'ils existaient, de protéger les manifestants. Et je crois qu'ils ont aussi permis de faire prendre conscience aux Blancs du racisme au quotidien qui était celui de l'Amérique. Après, c'est vrai que cette incapacité des États-Unis à sortir de ce problème, qui est un problème vraiment qui vient de l'origine de ce pays. J'ai été très frappé quand j'avais lu le dernier livre de Thomas Piketty. Il racontait qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, ceux qui avaient été indemnisés n'avaient pas été les esclaves, mais les esclavagistes. Donc oui. C'est un problème qui vient de très loin, qui n'a pas été résolu, y compris par les démocrates, y compris par Barack Obama, et qui traverse, qui divise une société américaine qui est très polarisée, y compris et d'abord sur cette question-là. L'autre dimension qui me paraît très importante est celle de ses conséquences politiques. Tant on mesure au travers des réactions de Donald Trump à quel point il est engagé dans une sorte de fuite en avant qui n'a plus de limites. Et je crois que la réflexion sur les conséquences que peut avoir cette affaire est un sujet d'intérêt à la fois américain mais d'intérêt mondial. Il faut se souvenir qu'il y a 3 mois à peine, vu par Donald Trump, en tout cas, sa situation était solide. Il avait un socle électoral qui était très stable et il avait un bilan qu'il pouvait défendre qui était considéré comme flatteur. Et puis, il y a eu le Covid et puis il y a eu George Floyd. Et là, il y a une fuite en avant avec, pour la première fois, un Donald Trump qui doit gérer une crise qu'il n'a pas lui-même générée, une crise qu'il subit et une crise au cours de laquelle il démontre, je parle de la crise du Covid, une absence absolue d'empathie envers les Américains, et au travers des 2 crises, son caractère totalement autocentré, son isolement de plus en plus abyssal, son incompétence qui de plus en plus se révèle comme dans un film, comme dans une photo de plus en plus aux Américains. Et pendant longtemps, on a sous-estimé Donald Trump. Peut-être qu'on ne mesure pas aujourd'hui à quel point il est en difficulté. Il y a eu le law and order qui est la seule réaction qu'il a eue, la loi et l'ordre, rien d'autre, aucun appel à l'unité, aucune solution politique. Il y a eu surtout le fait qu'il ait fait gazer des manifestants pacifiques pour pouvoir aller dans l'église et le fait qu'il ait agité...
Oui, de l'autre côté de la rue de la Maison-Blanche.
Exactement, et le fait qu'il ait agité la perspective de l'utilisation de la loi d'insurrection, c'est-à-dire d'amener les troupes fédérales pour rétablir l'ordre contre les gouverneurs eux-mêmes. Sur ces 3 décisions-là, le law and order, le gazage des manifestants, la loi d'insurrection, Donald Trump a été en rupture avec, y compris ses plus proches. On a vu quand même l'ancien secrétaire à la Défense prendre ses distances et l'actuel secrétaire à la Défense marquer sur ce point aussi son désaccord, tous les chefs des armées prendre leur distance. Et donc, je crois qu'on a là un Donald Trump qui est affaibli, ça ne veut pas dire du tout qu'il va être battu, mais il est vraiment affaibli.
Avant de revenir en France, Natacha, comment expliquer que ce soit cet événement-là qui ait suscité l'embrasement, que ce soit ce crime-là parce qu'un homme noir tué par un policier blanc aux États-Unis, ça n'est ni le premier, ni malheureusement sans doute le dernier. La vidéo, elle est devenue virale immédiatement. On a tous vu ces images insoutenables et cette vidéo, évidemment, elle est extrêmement forte, mais c'est la puissance de cette image-là qui a fait que l'histoire a connu un tel retentissement.
Je pense que on ne mesure jamais la part d'impossibilité à décider que tel événement va être plus important que tel autre. Gilles vient de le dire, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Il y a cette vidéo, le fait que cela ait pu être tourné, la personnalité du policier aussi qui est un multirécidiviste des arrestations violentes. Je veux dire qu'il y a une personnalité visiblement problématique sans que jamais la justice n'en ait tenu compte. Donc tout ça s'est conjugué. Mais ce ce qui est frappant aussi, c'est le fait que tout cela arrive pendant le mandat de Donald Trump. C'est-à-dire que ce même événement avec un président qui ne serait pas Donald Trump n'aurait peut-être pas pris autant d'ampleur parce que le président, dans ces cas-là, aurait su réagir. Donald Trump n'est... Enfin, on aurait tort de croire que tout vient de lui. Il est là actuellement comme le coupable idéal. C'est-à-dire qu'en effet, il est en train de fracturer encore plus la nation américaine. Il est incapable de gérer des crises et c'en est non seulement consternant, mais problématique. Mais Donald Trump est lui-même un symptôme. Et rien de plus qu'un symptôme de la fracturation et de la destruction intérieure de la société américaine, d'où le fait que justement il est particulièrement incapable de réagir face à cela, puisqu'il a été élu comme le résultat de cette fracturation qui s'opère depuis des années déjà. Mais ce qui est inquiétant, c'est en effet que il est un symptôme, mais que ses réactions sont en train d'amplifier cette fracture et que ce qui est le plus frappant est le fait qu'il dresse véritablement les Américains encore un peu plus les uns contre les autres. Jusqu'à un point qui peut être un point de non-retour.
Et un point de non-retour aux États-Unis, en tout cas une histoire qui a connu un écho ailleurs dans le monde, que ce soit en Corée, à Hong Kong, des manifestations ont eu lieu au Royaume-Uni, on a entendu les mots extrêmement durs de condamnation d'Angela Merkel, le silence embarrassé de Justin Trudeau, les mots du pape, et en France, justement, une histoire qui est devenue aussi une histoire française.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Ce combat, on ne le lâchera pas, c'est pour un combat.
Je suis là pour la même raison que tout le monde, parce qu'on en a assez, et parce que je suis noire, et parce que j'ai envie d'être considérée comme n'importe qui d'autre. On n'a pas la même histoire avec les États-Unis. Chez eux, ça a toujours été beaucoup plus violent, mais ça n'empêche qu'ici aussi, il y a ce racisme en fait qui est construit dans les bases, dans la fondation de notre société.
Il faut faire en sorte que chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction.
Mardi dernier, 20 000 personnes au moins manifestées à Paris à l'appel du collectif Justice pour Adama Traoré, ce jeune homme noir de 24 ans qui est mort il y a 4 ans après une interpellation policière. On a vu au cours de cette manifestation, de ce rassemblement, des symboles, des mots d'ordre qui étaient directement empruntés à ce qui s'était passé aux États-Unis, le hashtag Black Lives Matter. Il y a eu aussi ceux qui avaient mis le genou au sol, ceux qui se référaient au meurtre de Floyd. Gilles, est-ce que vous comprenez justement qu'il y ait un écho en France de ce qui s'est passé aux États-Unis, considérant que, bien sûr, le racisme existe partout, bien sûr, les violences policières sont une réalité des deux côtés de l'Atlantique, mais il n'y a pas la même histoire, les deux sociétés n'ont pas le même rapport à leur passé. Gilles.
Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Les deux pays n'ont pas la même histoire, n'ont pas le rapport, n'ont pas la même organisation de la société. La société américaine est réellement organisée autour de communautés. Le modèle républicain se fait à partir des citoyens. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que ce qui s'est passé, et c'est très important de le noter, est extrêmement significatif. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde à Paris, il y a eu beaucoup de monde en province. Ça, ce qui s'est passé a rencontré un écho dans une grande partie de la jeunesse, et pas seulement chez les jeunes noirs, et pas seulement dans les banlieues populaires. Il y a, on l'a déjà évoqué de nombreuses fois ici, un problème croissant de confiance de la population, d'une partie de plus en plus importante envers la police. On a eu une baisse spectaculaire depuis un an de la confiance envers la police. La confiance est plus faible que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il y a, on l'a évoqué aussi, toutes les enquêtes montrent que les discriminations sont une réalité, et que notamment la discrimination des contrôles au faciès est aussi une réalité. Donc tout ça est le fond français dans un contexte qui est un contexte qui va au-delà. Il y a évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis qui a pu jouer sur cette manifestation, mais Tout ça est le contexte qui est un contexte purement français.
Et il faut ajouter, Gilles, je vous interromps juste une seconde, ce qu'ont ajouté des sites d'information, je pense à Mediapart, je pense à Street Press qui révélait non seulement de nombreux discours racistes de la part de policiers ou de gendarmes, mais même un groupe sur Facebook où plus de 8000 policiers et gendarmes échangeaient des propos, des images ouvertement racistes, sexistes, homophobes. Christophe Castaner a d'ailleurs saisi le parquet de Paris pour qu'il ouvre une enquête à ce sujet. Je referme la parenthèse.
Oui, après, la question, je crois, maintenant la question qui est devant nous, c'est qu'est-ce que l'on fait dans cette situation ? Et pour aller vite, je pense, un, qu'il faut refuser le déni. Le mot violence policière est, je crois, ne doit pas être écarté. Et les images des violences policières, je voyais la proposition de Ciotti d'interdire de filmer. Je crois que ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Deux, il faut rétablir la confiance entre la population et la police et tout mettre sur la table. Les techniques policières, la nature des relations, les contre-pouvoirs policiers. Et trois, je termine par là, il faut réinstituer un pouvoir politique. Aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une forme de dette morale du pouvoir politique envers les policiers qui sont surmobilisés. Peut-être parce qu'il y a aussi une dette financière. On a le sentiment trop souvent que le pouvoir politique ne dirige pas mais suit la police. Il faut là aussi retrouver la bonne distance. Et puis le dernier point le plus important et le plus difficile, c'est de rebâtir la promesse républicaine, parce que tout ça a aussi pour origine le fait que je disais tout à l'heure, la société américaine n'est pas la société française, mais il faut que la promesse républicaine soit tenue, et elle ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, eh bien nous allons nous aussi verser de plus en plus vers les identitarismes.
Natacha Polony.
Oui, je pense qu'il y a en fait différents problèmes qui se conjuguent. Gilles a très bien parlé de la question purement policière, et de fait, il faut regarder les choses en face. Il y a des violences policières. Les épisodes des Gilets jaunes ont prouvé d'ailleurs que ces violences n'étaient pas seulement dirigées contre des gens de couleur, mais qu'il y avait une mauvaise gestion du rapport aux citoyens. Et en effet, il y a aussi des comportements racistes de la part de certains policiers. Pas tous, mais de la part de certains policiers.
Vous ne diriez pas racisme systémique, ou vous ne diriez pas que la police française est raciste ?
Alors, justement, c'est en effet, ça c'est le produit aussi d'une dégradation des relations entre la police et les citoyens, notamment dans certains quartiers où les policiers subissent des violences eux aussi qui sont absolument inacceptables, et tout ça est en train de se dégrader de façon extrêmement dangereuse. Il y a des outils, Gilles en a cité quelques-uns, on peut ajouter la mise en place d'une véritable police de proximité, enfin il y aurait beaucoup de choses à faire, une reconstruction de la carte entre police et gendarmerie, enfin il y aurait énormément de choses à faire, mais ce n'est qu'un des volets, parce que je pense que cette manifestation est extrêmement importante. 20 000 personnes, c'est beaucoup.
Oui.
C'est vraiment beaucoup. Et qu'il y avait des publics très divers, en fait, dans cette manifestation. Et il y a toute une part de la jeunesse qui est venue là, qui n'est pas politisée, et qui est venue pour une demande, en effet, de justice, d'égalité, en faisant un lien spontané avec ce qui se passe aux États-Unis, dans une forme de, j'allais dire presque de mélange, dans la mesure où l'uniformisation de la planète à travers la culture de masse américaine fait que les différences historiques ne sont peut-être pas forcément perçues et pensées, et que du coup la différence dont parlait Gilles entre l'organisation de la société aux États-Unis et l'organisation de la société en France, la façon d'être ensemble, n'est pas forcément perçue par une part de la jeunesse. Tout cela devient un seul et même ensemble. Or, je pense que ça pose problème parce que justement les problèmes ne sont pas les mêmes, ne sont pas exactement les mêmes. Autant, dans les dom-toms, il y a quelque chose qui peut ressembler à ce qui se passe aux États-Unis, et les mouvements qu'on a vus contre la mémoire de Victor Schœlcher sont particulièrement frappants. Parce que là, et en effet, la question de l'indemnisation des esclavagistes et pas des esclaves se pose de manière un peu semblable à ce qui peut se passer aux États-Unis, mais sur le territoire de la métropole, Ce n'est pas exactement la même chose. Or, face à toute cette jeunesse qui vient par un élan de demande de justice, il y a certains groupes militants qui, eux, mêlent volontairement les choses et qui veulent absolument mettre en avant des concepts qui sont les concepts antiracistes venus des États-Unis, la question du fameux privilège blanc, la question du racisme systémique. Et là, je pense que c'est un problème parce que la promesse républicaine universaliste est une réponse à la diversité des origines qui me semble la bonne. Le problème, et Gilles l'a dit, c'est l'abandon de la promesse républicaine. Il y a une dimension sociale majeure et il ne faudrait pas l'effacer. C'est-à-dire que dans un pays où il n'y a aucun ascenseur social, dans un pays où quand on est dans un milieu populaire, dans un quartier difficile, on n'a rigoureusement aucune chance de s'en sortir, de franchir les échelons de l'échelle sociale, évidemment que la frustration et la colère peut se transformer en une colère contre ce qui est considéré comme un faux universalisme. Donc la question sociale, la question urbanistique doivent être réintroduites. Et Emmanuel Macron avait cru que un peu facilement, en fournissant des emplois de chauffeurs Uber dans les banlieues, on allait régler par miracle tout ça. Non, ça ne suffit pas. Et il faut un immense plan pour les banlieues, parce que sinon, ça va se transformer en sous le fait justement de certains qui intellectuellement veulent absolument en finir avec l'universalisme républicain, ça va se transformer en une fracturation de la société française qui est déjà en route et qui me semble profondément dommageable.
Gilles Finkelstein, avant d'accueillir notre invité.
Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je suis d'accord avec Natacha Polony.
Alors, je vous pose la question très simplement. Est-ce que vous parleriez, par exemple, de racisme systémique dans la police française? Est-ce que l'expression de privilège blanc qui est régulièrement utilisée aux États-Unis et qui ne suscite pas énormément de débats vous gêne, ou est-ce que vous l'emploieriez vous aussi pour parler de la France et d'expérience française pour le coup?
Non, je trouve qu'il y a une importation des concepts et des analyses américains qui ne correspondent pas ni à notre histoire ni à notre situation, mais que si on veut dénaturaliser les origines ethniques, eh bien ça se transcende par un projet politique et par une action beaucoup plus vigoureuse. Natacha Polony l'a dit, pour redonner une chance à chacun et faire en sorte que les assignations identitaires soient moins fortes qu'elles ne le sont aujourd'hui.
La suite de l'émission, il est bientôt midi et demi, à suivre dans le Grand Face-à-Face, le débat avec Adèle Vanrette.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Le drame, c'est l'eau tiède, la vie qui continue après la fin du film et dans laquelle il ne se passe rien. Les secondes qui se suivent et qui se ressemblent, d'année en année, on en viendrait presque à la souhaiter, la fin, pour qu'enfin il se passe quelque chose, interrompre le flux par tous les moyens, quitte à y laisser sa peau, et pourtant, ça continue. Fin de citation, la phrase est de la philosophe Adèle Vanrette, dans un livre passionnant qui vient de paraître dans la collection Blanche de Gallimard, le titre « La vie ordinaire », c'est un récit écrit à la première personne, récit personnel, mais surtout une réflexion qui nous concerne tous. Comment appréhender le quotidien, l'habituel, mais aussi du coup que faire du médiocre, du répétitif, des questions qu'on s'est tous posées pendant nos vies confinées et qui n'ont pas disparu, loin de là, avec la liberté retrouvée. Bonjour Adèle Vanrette.
Bonjour Ali Badou.
Bonjour en voisine, voix familière de France Culture, productrice des Chemins de la Philosophie. C'est l'une des émissions les plus podcastées de la radio. Et on a écouté pendant le confinement des épisodes formidables que vous avez consacrés à la chambre de Virginia Woolf, par exemple, à Pascal, qui a eu une phrase extraordinaire que vous nous rappelez et qui dit beaucoup de choses qu'on a là aussi tous expérimentées.
Tout le malheur de l'homme est qu'il ne peut rester en repos dans une chambre, tout simplement.
Voilà, votre livre ne parle pas du confinement, vous l'avez écrit avant, mais il fait malgré tout écho à une expérience qu'on a vécue. On va en parler et j'ai hâte de savoir ce que Natacha et Gilles en ont pensé. Je vous demande pas si ça va.
ça va.
Détester la question.
Comment vas-tu? Comment vas-tu?
Oui.
Bah, quand quelqu'un pose cette question, on se sent un peu pris dans un étau, on est obligé de répondre, on n'a pas le droit de dire si ça va vraiment pas bien, et quand on dit que ça va bien, parfois on ment. Oui, c'est assez stressant comme question, je trouve.
Mais malgré tout, elle évoque chez vous énormément d'autres choses, ça vous fait partir loin, très loin, et on va en parler. La vie ordinaire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la vie, pour le dire très simplement, répétitive que nous avons vécue quand nous étions enfermés, que vous avez vécue aussi quand vous étiez enfermés chez vous pendant ces longues semaines de confinement, quand on vivait l'ordinaire mais dans une situation extraordinaire, ou est-ce que la vie ordinaire c'est la vie qu'on a retrouvée depuis que le déconfinement a été décrété ?
Le propre de la vie ordinaire, c'est qu'elle est toujours là. C'est que quelles que soient les choses qu'on fait, les personnes avec lesquelles on vit, l'activité qu'on choisit de faire, on ne pourra jamais la fuir. Et c'est sans doute pour ça qu'elle me paraît aussi insoutenable par moments et parfois insupportable, quand bien même elle pourrait être belle. Je distingue la vie quotidienne de la vie ordinaire. Et au fond, le confinement,
oui, justement.
Voilà, le confinement nous a mis face, a réduit notre existence à sa dimension quotidienne, de l'heure du réveil, la vie avec les enfants ou sans enfants, le travail ou le télétravail ou l'absence de travail. C'était une répétition machinale, parfois douloureuse, parfois extraordinaire pour certaines personnes.
Les séries, les films.
Qui est ce que j'appelle le quotidien. L'ordinaire, on peut jamais le changer. L'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé. C'est un rapport au monde qui nous colle à la peau et qui est complètement indépendant des conditions de vie. Donc confiné ou pas confiné, de toute façon, on est dans l'ordinaire et on pourra jamais en sortir.
Et ça vous dégoûte même.
Disons que ça
suscite un dégoût.
C'est pour moi le lieu d'une grande violence. Parce que ça rappelle vraiment quelque chose de l'existence qui n'est pas celle que j'ai envie de voir. Et je crois que d'ailleurs, beaucoup de choses dans notre vie sont faites pour fuir cette condition-là. C'est très difficile de voir en face ce de quoi nous sommes faits. Quand on s'arrête, comme dirait Pascal, si on est en repos dans une chambre, il faut bien entendre cette phrase, ça ne veut pas dire juste être allongé sur son lit. En repos, ça veut dire sans divertissement, sans activité, sans série, sans téléphone, sans travail, sans rien.
Oui.
Pourquoi c'est aussi dur de ne rien faire ? Parce que quand on ne fait rien, on se retrouve face à ce qui est, face au réel, qui est parfois douloureux, qui est teinté d'une sorte d'âpreté. C'est un réel qui est très épais, qui nous rappelle aussi qu'on va mourir, qui nous fait penser à des choses qu'on occulte généralement. Bah, la vie ordinaire, elle est faite de ça.
Et c'est pas la vie tranquille.
C'est l'inverse de la vie tranquille. La vie ordinaire, c'est le lieu d'une intranquillité que par ailleurs j'aime beaucoup parce que je crois qu'elle est vecteur de création. Elle encourage à agir, elle encourage à pas s'assoupir dans le laisser être, qui a aussi des vertus, mais qui, au fond, on peut se demander est-ce que la vie vaut d'être vécue si on ne se fait pas piquer par le dard de l'intranquillité et qu'on est conduit à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait si on avait passé la vie la tête sous l'oreiller, au fond, à faire l'autruche, à faire comme si on n'était pas concerné.
Faire des choses, qu'est-ce que vous appelez que par ça, c'est faire
se
des
divertir.
Émissions de philo, écrire des livres,
bah,
faire des enfants,
bah,
faire la fête,
que, bah,
tomber amoureux
je
ou amoureuse.
Tout ça, d'ailleurs, et peut-être que tout ça, c'est une manière de combler cette espèce de trou de l'existence dans lequel je crains de basculer et qui, à mon sens, se trouve dans la vie ordinaire. Ouais.
Natacha Polony.
Ce livre est aussi, en fait, une réflexion sur une expérience qui est une expérience majeur et qui n'a jamais été véritablement pensé en philosophie, tout simplement parce que la plupart des philosophes ne l'ont jamais vécu.
C'est sûr.
C'est l'expérience de la grossesse et de l'enfantement. Et il me semble que ce que vous appelez, Adèle Vendrette, la vie ordinaire est particulièrement possible, enfin, qu'il est particulièrement possible de la penser à travers cette question de la grossesse et de l'enfantement parce que la grossesse et l'enfantement nous rappellent que nous sommes des mammifères. Et c'est en fait cette prise de conscience de l'incarnation.
Ouais.
Du fait que nous avons un corps, que ce corps nous échappe, parce que dans la grossesse, c'est ça, c'est l'absence totale de maîtrise de ce corps. Et le fait que ces phénomènes nous inscrivent dans un cycle, celui de la vie et de la mort, nous rappelle donc que nous sommes mortels et que nous n'y pouvons rien et que des choses se passent qui ne relèvent absolument pas de la vie de l'esprit et de la possibilité d'avoir une prise sur ce réel. Et tout ce que vous décrivez de l'expérience de la grossesse, du fait d'avoir en soi un autre que soi-même et de le faire naître, raconte ça. J'y ajouterais d'ailleurs le fait, cette chose absolument vertigineuse qui est de se dire que ce qu'on absorbe, de ce qu'on mange, les molécules de ce qu'on mange se retrouvent dans cet être et le constituent. Ce qui, justement, nous inscrit dans ce cycle. En fait, c'est l'incarnation qui est qui est une chose absolument impensable.
Adèle Morette.
C'est l'incarnation et c'est ce type d'expérience qui en effet passe par le corps et qui n'a pas été pensé en philosophie, pas parce qu'il est impossible de le penser, mais parce qu'il implique une certaine expérience.
Et là, justement, la plupart des philosophes de la tradition, ça commence à changer aujourd'hui, vous en êtes la preuve vivante, la plupart des philosophes sont des mecs, ou ont été des mecs.
Dans l'histoire de la philosophie, oui, jusqu'au XXe siècle, où il y a eu les philosophes femmes qu'on connaît, qu'on étudie aujourd'hui, Simone de Beauvoir,
parlez, Simone
Anna Arendt, Simone Weil, et
mais
aucune
Simone
d'entre
de Beauvoir,
elles n'ont eu d'enfants.
Simone Weil, oui.
Voilà, c'est ça qui est assez fou, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des femmes ni des philosophes, au contraire, il n'y a rien de normatif dans mon livre, hein. Je ne dis pas du tout qu'il faut être enceinte et que c'est une expérience absolument incontournable. Je choisis d'en parler, notamment parce que le livre est pris dans une réflexion philosophique et en fait, il fallait que je sois cohérente. Je ne pouvais pas d'un côté en appeler à une philosophie qui soit incarnée, qui soit terrestre, qui fasse la part belle aux expériences que nous faisons et de l'autre, écrire un essai théorique très coupé du monde. Et au fond, l'expérience de l'accouchement m'intéresse parce que vous savez, depuis Socrate, l'accouchement, c'est la métaphore qu'on emploie
pour parler de la philosophie.
Socrate dit, moi, je suis pas sage, mais je suis une sage-femme qui va, telle une sage-femme, je vais faire accoucher les âmes de la vérité qu'elles détiennent déjà en elles-mêmes sans qu'elles le sachent. Et au fond, je me dis, de deux choses l'une. Soit la philosophie est vraiment une sorte d'accouchement de l'âme. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle jamais de l'accouchement réel d'un corps par un autre? Qui n'a rien d'indigne, qui n'a rien de malsain, qui est juste ce dont nous venons tous. Soit la philosophie n'est pas affaire d'accouchement, et alors quelle est-elle ? Et donc ça redéfinit la pratique de la philosophie, c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est ce que j'ai essayé de saisir dans le livre. Quel type de philosophie est-ce qu'on peut penser lorsqu'on pense à partir du corps et qu'on vit l'accouchement pour de vrai, homme comme femme, hein, les hommes assistent à l'accouchement.
Et avant même l'accouchement, quand on regarde son ventre et qu'on a le ventre, comme vous le dites, d'une baleine qui est aussi un mammifère.
Mais c'est quand même une expérience absolument dingue que d'avoir en soi une autre vie que la sienne. Ça, c'est vrai. Et il y a très peu de choses qui ont été écrites à partir de cette expérience-là. Et moi, je n'affirme rien, je pose des questions. C'est vraiment un livre qui cherche et qui questionne.
Gilles Finkelstein.
Oui, j'ai trouvé votre livre très, très attachant parce que vous vous dévoilez. C'est plus le livre d'une philosophe que qu'un livre de philosophie, et vous évoquez de manière très directe votre vie personnelle, votre vie familiale. C'est vraiment toutes les figures de votre vie familiale qui peuplent ce livre. Vous dévoilez votre caractère, votre intranquillité, votre exigence, et c'est un livre en même temps que j'ai trouvé déroutant. Pas tellement en raison du moment qu'évoquait Ali, ce décalage entre il a été écrit avant le Covid, avant le confinement et il sort après. Pas tellement à cause de sa structure qui est faite de plein d'allers-retours, de plein de moments différents, mais en raison de l'objet même de ce mot, de ce concept de la vie ordinaire que vous réussissez à définir en creux, à dire ce qu'il n'est pas. Vous avez dit ce n'est pas le quotidien, à un autre moment vous écrivez ce n'est pas ce qui est banal, mais dont on a du mal à voir ce qu'il est. Et tout ce que...
Ah, pourtant elle le définit, Adèle
Morette. Ah, et tout ce que vous... Alors, ma question en fait est d'abord, comment vous le définissez concrètement, c'est-à-dire pas seulement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ce qui demeure quand tout... ce qui est toujours là qu'est-ce qui est toujours là, en fait? Et dans tout ce que vous décrivez, vos relations à la fois avec, à certains moments, avec votre mère, avec votre père, ce qui traverse le livre, qui est la maternité, les relations avec votre compagnon, avec ses propres enfants, est-ce que tout ça, c'est ce qui constitue notre ordinaire parce que il est toujours là?
Je rajoute, quand on quitte une fête sans avoir embrassé quelqu'un qu'on a pourtant envie d'embrasser, parce que c'est aussi là dans le livre, mais en l'occurrence, oui, pour répondre à Gilles, le mot ordinaire, il vient du latin, vous le définissez, ça veut dire...
Mettre en ordre.
Mettre en ordre, pourquoi? Parce que sinon c'est le bordel.
C'est ça la question, si ordinaire, ça veut dire mettre en ordre, qu'est-ce que l'ordinaire met en ordre? Ça veut dire que l'ordinaire n'est pas un état premier, c'est un état second. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de creuser cet état second pour voir ce qui se trouve en dessous, qui est peut-être, si c'est pas l'ordre, c'est peut-être le bordel, qui est peut-être ce qu'on appelle le réel. Et ça, c'est la quête de la narratrice. Et là, je voudrais répondre à la question qui vient de m'être posée. je ne conçois pas ce livre comme un livre de dévoilement. En effet, je dis je, et le je, J-E, s'est imposé pour la réflexion que je proposais, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais pas faire un essai complètement abstrait. En revanche, je mets en scène la tentative de la narratrice d'écrire un essai classique sur la vie ordinaire, et l'échec, au fond, c'est aussi le récit d'une sorte de tentative.
Pourquoi l'échec?
Parce que dans le livre, en tout cas, la narratrice, au bout d'un moment, n'écrit pas le livre qu'elle aurait voulu écrire, mais elle écrit le livre que vous avez entre les mains. Voyez, donc il y a le passage, en fait, comme si le livre pouvait s'écrire dès lors que la quête n'était pas celle de la théorie de la vie ordinaire, mais de la vie ordinaire elle-même.
Mais la narratrice, elle a regardé Mad Men, elle a lu Montaigne, elle a aussi pratiqué le travail domestique, comme on appelle ça, faire le ménage, c'est elle a nettoyé, remis les objets à leur place, organisé les journées, elle a lutté contre le désordre, et vous l'avez fait avant et après avoir été mère. C'est pas si terrible que ça.
De quoi ?
On l'a tous vécu, justement, cette volonté de mettre de l'ordre.
Ah oui, oui. Non, mais alors ça, oui, la mise en ordre, elle a quelque chose d'agaçant quand elle est l'horizon de tout. Au fond, j'ai rien contre le quotidien harmonieux. Je suis comme tout le monde. J'aime vivre dans un quotidien harmonieux. J'aime les choses qui soient à peu près rangées, qu'on s'y sente bien. Simplement, ce que je désigne dans le livre en citant ça, et la narratrice elle-même, à un moment, alors qu'elle attend son enfant, elle est bien obligée, ça ramène quand même quelque chose de très quotidien d'attendre un enfant. Il faut une table à langer, faut un livre, des choses très concrètes, et elle se dit mais si soudain ma vie devenait ça, se réduisait à ça. Le problème, si vous voulez, c'est pas la vie ordinaire ni la vie quotidienne, le problème c'est quand il n'y a que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de mauvaise foi, souvent, dans l'émerveillement quotidien. On fait comme si c'était tout ce qui comptait, la couleur de la tasse sur votre table, la couleur du studio, la mine que vous avez aujourd'hui. Quand on est de bonne humeur, on célèbre ces choses-là, et moi la première. Ce qui me pose un problème, c'est quand ça s'arrête là.
Quand on se cogne contre une trottinette dans son salon.
Pourquoi pas ? Ça c'est le bon, ce contre quoi on se cogne, c'est peut-être le réel lui-même, hein, d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait mal souvent. Mais voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est j'essaye, moi, ce qui me hante, ce qui m'obsède, c'est le juste milieu entre le drame, la tragédie, les conditions de vie qui sont très difficiles, et de l'autre, l'émerveillement béat devant les petites choses de la vie. La vie ordinaire, ça se situe entre les deux, et c'est ça que je cherche à explorer.
Natacha.
Alors, c'est justement cet émerveillement béat qui vous agace m'a fait penser à mon propre agacement au moment de la sortie du livre de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, parce que je pense que ça relève à peu près de cette chose-là. Et à l'époque, j'y opposais ce que j'avais lu chez Yves Bonnefoy, et dans la lecture duquel j'avais plongé pendant des années. Et justement, il y a chez Yves Bonnefoy, donc un des plus grands poètes français mort récemment, cette recherche d'autre chose que cela, de ce qu'il appelle la présence au monde. Et en fait, ce qui me semblait intéressant dans votre récit, c'était que j'y voyais des liens avec cette recherche qui, chez Bonnefoy, est celle du moment où nous nous sentons exister ici et maintenant, et où nous sentons véritablement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui relève en fait des sens, et que tout le travail derrière, pour lui, de la poésie, est de réussir à traduire ce moment-là à travers les mots les plus simples pour essayer de le saisir, mais qu'évidemment on ne parvient jamais à saisir cette expérience.
Oui, c'est exactement ça, cette quête je dirais pas d'un ici, d'un maintenant, mais d'un lien au monde qui soit absolument évident. Au fond, et c'est ce que dit la narratrice dès le début, elle dit, mais j'ai du mal à dire que cette vie est vraiment la mienne, comme s'il y avait un caillou dans la chaussure de mon quotidien. Cette sensation de ne pas coïncider tout à fait avec les choses, je crois que on en fait beaucoup l'expérience, je la fais et je crois que
vous en avez fait même un métier et une émission très très écoutée en l'occurrence
les chevaux de la philosophie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous parlez de Bonnefoy, on pourrait parler de Clément Rosset aussi, c'est pareil, c'est comment nommer cette chose qui nous fait être au monde et ce désir de vouloir y être de plein pied. Pourquoi faudrait-il vouloir y être de plein pied ? Je ne sais pas, mais c'est ce vers quoi l'intranquillité pousse et c'est ça qui me conduit à écrire en tout cas.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous dites être de plein pied. Vous marquez une irritation qui est très intéressante par rapport au rituel. Et d'ailleurs, que ces rituels portent une part de vérité, c'est-à-dire c'est votre mère la mère qui demande à la narratrice, donc comment vous allez,
et comment
qui demande, est-ce qui vous irrite c'est qu'elle vous demande
vraiment la question.
Comment vous allez? C'est pas une question automatique. Donc, que irritation que ce rituel porte une part de vérité ou qu'il porte une part de jeu. À un autre moment, vous racontez que votre compagnon, après une promenade dans la forêt de Fontainebleau, vous avait demandé un jour, est-ce qu'on va voir Louis? C'est cet ami qui est sur le chemin du retour, mais dont la visite vous fait faire un détour, qu'une fois vous y êtes allé et que de manière systématique, comme un jeu, il repose cette question, et si on allait voir Louis? Et vous êtes irrité aussi par cela. Et donc, ces rituels, qu'ils soient vérité ou qu'ils soient part de jeu, vous irritent. Est-ce qu'on peut échapper aux rituels? Est-ce qu'ils ne rendent pas aussi la vie plus douce?
Et là, pour le coup, oui, vous n'êtes pas très philosophe, en tout cas pas très sage.
Alors, non, ça, je revendique pas du tout la sagesse. Hein. Ce qui m'intéresse...
Faites un effort quand même.
Dans votre question...
Au lieu de dire merde quand votre fils ou le fils de la narratrice fait tomber des lasagnes sur sa salopette.
Oui, mais c'est un contexte particulier. Là, vous parlez que du fils, elle perd le côté qui va pas très bien.
Mais pour répondre à Gilles.
Par rapport à la douceur, oui, non, ça, c'est une question qui m'intéresse. Oui, il y a une grande irritation... qui se provoquait par le langage ordinaire, ces mots prononcés sans qu'on y pense, par automatisme. Et la vie de famille est faite de ça, et que ce soit la mère de la narratrice, le compagnon, ils peuvent rien au fond, ils sont eux tout à fait normaux, c'est elle qui est très étrange à s'énerver, d'entendre des phrases qu'elle ne veut plus entendre parce qu'elle les a trop entendues. Elle est peut-être même parfois par moments ridicule, je lui donne pas du tout raison, je pense pas qu'il faille forcément être de son côté. En revanche, je rebondis sur le terme que vous avez employé de douceur, oui, et d'ailleurs je crois que plus le texte avance, plus le langage change, et même les mots qui sont employés, j'ai travaillé là-dessus dans l'écriture en tout cas, la dernière partie du livre, c'est comme si l'irritation, la lutte permanente, parce que c'était un livre de combat quand même, eh bien venait s'apaiser parce que la narratrice est face à un problème qui cette fois ne concerne pas elle ni la vie ordinaire, qui est un problème objectif et réel, qui fait qu'elle trouve dans ce qui avant l'énervait, elle trouve un réconfort. Et oui, il y a une sorte presque d'apaisement et de douceur. Et peut-être que l'écriture est la seule manière de montrer ça, ce changement par rapport au langage ordinaire.
Mais où est le vrai courage, Adèle Van Rhett? Est-ce que c'est le courage est dans le fait d'affronter l'ordinaire, ou est-ce qu'il est au contraire dans le divertissement, dans tout ce qu'on fait pour échapper à cet ordinaire, à l'habituel?
Alors, je voudrais dire déjà que le divertissement n'est pas quelque chose que je condamne. Au contraire, je suis la première à le faire et qu'on n'a pas le choix. Ça, Pascal l'a bien montré. Hein, le divertissement, c'est une condition de survie. On ne tiendrait pas une seconde si on était sans divertissement face à nous-mêmes. Ce serait insupportable. Donc, au contraire, divertissons-nous de toutes les manières possibles.
Mais le courage, il est chez le fêtard, pour le dire rapidement, ou est-ce qu'il est au contraire chez celui qui voit dans la fête une lâcheté, une fuite en avant?
Ni l'un ni l'autre. Le courage, justement. Vous posez bien la question. Le courage, il est dans l'absence de manichéisme. Le courage, il est dans l'absence d'opposition. Le courage, il est entre les deux. Il est dans le geste même de creuser la nuance qui se trouve entre d'un côté celui qui condamne et celui qui célèbre, et celui qui sait qui trouve ça intéressant et qui sait que les choses sont toujours un peu plus compliquées. Le courage, c'est de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe, d'être lucide sans être défaitiste. Et la lucidité peut amener une forme de jouissance, hein, même de ce qui est. C'est peut-être.
Mais j'aimerais qu'on en débatte justement avec Natacha et Gilles, parce que vous citez un philosophe américain et personne dont vous avez décidé de suivre les conseils lorsqu'il disait, je le cite, « Je ne demande pas le grand, le lointain, le romanesque, j'embrasse le commun, j'explore le familier, le bas et suis assis à leurs pieds. » C'est de la sagesse ou c'est un renoncement et finalement une forme d'amour de la médiocrité?
Non, alors déjà, je crois qu'on aura vu dans le livre que je ne déborde pas d'amour pour la médiocrité. Je la condamne pas non plus, mais c'est pas
non,
ça.
Non, mais ce qu'on peut écrire. Entendre quand on lit Emerson.
Pour Emerson, en fait, c'est stratégique. C'est que Emerson, pour le présenter en deux mots, le premier philosophe américain qui, dans les années 1830, prononce un discours devant ses étudiants à Harvard, qui s'appelle L'intellectuel américain, que vous pouvez trouver. C'est un texte très court, très facile à lire, et qui a été considéré par la suite comme étant le premier appel à l'indépendance intellectuelle des Américains. Il dit, ça fait quelques décennies maintenant que les États-Unis existent. Comment se fait-il que nous n'avons pas produit de culture américaine, de littérature américaine, de philosophie américaine? Eh bien parce que nous passons notre temps à imiter ce qui se fait en Europe. Et comme en Europe c'est le grandiose, le sublime, le romantisme, eh bien nous on fait la pareille. Non, dit-il, il faut changer de regard sur ce que nous faisons et partir d'ici, partir du lieu où nous vivons maintenant, qui est les États-Unis, et proposer une pensée qui parte de là. C'est pourquoi elle dit « baissons les yeux ». On n'est pas du côté du romantisme, on est du côté de ce qu'il y a devant nous. Donc, le bas, le trivial. Mais ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas un échec, c'est un point de départ pour la pensée. C'est un affranchissement intellectuel.
Natacha Polony.
Cette dimension-là, moi, je la retrouve aussi chez un autre penseur qui a utilisé énormément ce terme ordinaire, c'est George Orwell. Mm-hmm. Parce que on retrouve chez George Orwell l'idée, enfin, c'est le mot ordinaire est celui qu'il a trouvé pour désigner donc ce qu'il appelle les gens ordinaires, c'est-à-dire en fait ceux pour lesquels il écrit et se bat politiquement. Et il y a pour lui dans ce concept-là, le concept de gens ordinaires, une profonde noblesse. De même, d'ailleurs, on retrouve ce terme dans un texte extrêmement beau qui est une réflexion sur le crapaud ordinaire dans lequel ordinaire. Il développe l'idée que, oui, et dans ce texte, il développe l'idée justement de l'émerveillement sur le retour du printemps et le fait que on ne peut pas penser politiquement si l'on n'est pas ému, si l'on n'est pas capable de s'émouvoir de ce retour du printemps, des amours des crapauds, et que le fait de croire qu'il faut nettoyer tout ça, que ce n'est pas noble, et que seul est noble le combat politique, c'est une façon de se couper des gens qui, eux, aspirent à cette vie-là. Et ce texte me fait toujours penser au fait que le loisir préféré des Français, c'est le jardinage. Et je pense qu'il y a une profonde noblesse dans ce genre d'action qui nous confronte dans la quotidienneté totale, dans la simplicité totale, justement à ce cycle de vie et de mort dont nous parlions, c'est-à-dire planter une graine, la voir pousser, se donner du mal. Il y a une dureté face à cela. Et je pense que oublier la très grande noblesse de l'ordinaire est sans doute assez dommageable.
Oui, merci beaucoup pour cette intervention d'avoir cité Orwell, pour cette question, parce que ça me permet de préciser une chose. La vie ordinaire, c'est pas le texte que j'ai écrit, la façon dont je parle de la vie ordinaire n'est en aucun cas un jugement de valeur à l'égard de certaines conditions d'existence ou de comment on mènerait sa vie. Je me considère comme étant absolument ordinaire. Je sors complètement de l'opposition entre ordinaire et extraordinaire. Et en aucun cas, je ne parle de gens ordinaires comme si je méprisais les gens qui se contentent d'une petite vie.
Non, mais on peut dire que vous n'abordez pas la condition sociale et que la vie ordinaire n'a aucun sens selon qu'on vit.
Elle concerne tout le monde. Personne n'y échappe. Donc là, pour le coup, quelles que soient les conditions d'existence, c'est ça. Mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est pas, je me dis pas, les gens ordinaires, ces pauvres gens qui ratent leur vie, au contraire d'ailleurs, parce que c'est pas, ça veut rien dire les gens ordinaires. En revanche, vous avez raison de rappeler la noblesse des personnes qui elles-mêmes et dont nous faisons tous partie, je crois, essayent de se satisfont d'une activité qui elle-même peut être comment dire, source soit d'identification, soit de gratification, mais qu'il faut tout à fait sortir de la dimension sociologique que cette catégorie pourrait impliquer.
Okay. Gilles Finkelstein.
Oui, dans votre essai, il y a, au travers des différentes descriptions, une mise à nu de certains moments de cette vie ordinaire qui a un effet de révélation du réel, pas seulement du réel vécu par vous, mais pour le coup, pas d'un réel qui est vécu par des millions d'hommes et de femmes, et en l'occurrence, d'abord par des millions de femmes, lorsque vous accouchez et que la sage-femme décide ou non de faire une péridurale, lorsque vous élevez votre bébé et que le partage des tâches entre les parents tout d'un coup se fait, vous l'écrivez comme si cette décision a été prise un jour où je n'étais pas là, lors d'un avortement, le pharmacien accepte ou non de vendre un médicament, lorsque vous élevez vos beaux enfants avec ce rôle un peu indéfini d'une belle-mère que la recomposition des familles rend pourtant de plus en plus important. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Est-ce que c'est aussi un des objets de votre essai qui est la révélation d'un réel dont on ne parle pas suffisamment?
Oui, j'emploierai pas le terme de révélation, mais vous avez tout à fait raison. Je voulais attirer l'attention sur ces aspects-là de la vie ordinaire. Qui sont étonnamment absents non seulement du travail philosophique, du travail de la pensée en général, mais aussi même des références culturelles. On voit peu de belles-mères qui ne sont pas Blanche-Neige, c'est-à-dire des belles-mères ordinaires, pas Blanche-Neige, la belle-mère de Blanche-Neige elle-même. C'est-à-dire, on n'est plus dans le rôle de la marâtre, et c'est un rôle qui me semble est assez courant aujourd'hui, beau-père, belle-mère, et c'est un statut bizarre. Et comme le livre réfléchit beaucoup sur les rapports de filiation, père-fille, mère-fils, etc., et ben, où est-ce qu'on met la belle-mère dans tout ça? Quel lien crée-t-on avec des enfants qu'on n'a pas mis au monde, mais qui font partie de notre famille?
C'est une bonne question. Il faudrait aussi la poser à ceux qui ont été confinés pendant des semaines avec leur belle-mère, justement, ou leurs beaux-parents, et qui ont souffert énormément.
Oui, mais voyez, vous dites ça comme si dès qu'on parle de belle-mère, beau-père, c'est un problème. Oui, non, mais c'est pas.
Parce que je pensais à Blanche-Neige.
Oui, voilà. Mais ça, c'est étonnant. C'est que belle-mère, ça ne veut rien dire aujourd'hui.
Est-ce que vous êtes féministe, Adèle Vanrette?
Moi qui n'est pas féministe aujourd'hui.
Non, parce que vous citez Simone de Beauvoir et vous racontez justement la distance que vous prenez avec la manière dont elle pensait la féminité, le fait.
Non, pas exactement. J'inscris Simone de Beauvoir dans son contexte. Au contraire, je rends justice à ce qu'elle dit dans Le Deuxième Sexe et je dis, mais elle parlait pas de. Elle disait que l'affranchissement de la femme serait le fait de peut-être de choisir de ne pas tomber enceinte pour ne pas être soumise aux lois de la nature.
Ouais.
Et je dis, mais en revanche, on ne peut pas lui reprocher, justement, en 1949, de ne pas prendre en compte la question du plaisir féminin dont on parle aujourd'hui, de ne pas parler du clitoris, de ne pas parler de ces choses qui sont encore passées sous silence.
Qui sont encore passées sous silence, mais malgré tout, la possibilité de faire l'amour, de jouir sans faire d'enfant, c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose qui date de Simone de Beauvoir.
Non, pas du tout. En revanche, comment expliquez-vous le fait que le clitoris ne figure dans les manuels scolaires que depuis quelques années? C'est quand même assez ahurissant. C'est comme si on ne voulait pas parler du corps de la femme dans ce qui signifiait. Or, la femme, à la différence de l'homme, peut jouir sans se reproduire.
J'essaie de réfléchir.
Eh ben oui, enfin, si vous voulez, je vous fais un dessin.
Mais
c'est pas du tout le même.
Je rigolais.
C'est pas le même endroit. Et ça, c'est quelque chose de l'anatomie féminine qui n'est pas dit.
Natacha, il reste peu de temps.
Oui, mais justement, cette question de la façon dont se pose le féminisme est absolument passionnante, parce que moi, j'ai le souvenir dans Le Deuxième Sexe d'avoir lu ce moment où Simone de Beauvoir explique en gros les femmes par leur anatomie sont renvoyées à une forme de narcissisme, et elle n'emploie pas ce mot de façon péjorative, mais parce que elles sont renvoyées en permanence, en tout cas au moins une fois par mois, à leur corps, à leur intimité, et au fait justement qu'on ne maîtrise pas ce corps et qu'il nous dépasse. Et de fait, elles ne pouvaient pas en effet penser ce que serait une féminité qui maîtrise la procréation, qui n'est plus dépendante de cela. Mais ce qu'elle disait, c'est que la question du rapport au monde extérieur allait se poser, et il me semble que la question de savoir à partir de quel moment les femmes peuvent justement sortir de cette imprégnation biologique, de leur destin biologique, est absolument majeure, et que le féminisme n'a sans doute pas assez encore pensé cette question du corps.
Adèle Vanrette.
Je sais pas si le féminisme n'a pas assez pensé cette question du corps. Je crois qu'on en parle de plus en plus à travers des descriptions anatomiques, à travers la question de la jouissance, mais aussi de l'affranchissement par rapport à beaucoup de contraintes corporelles.
Avant que le Covid débarque dans nos vies, on ne parlait quand même que, ou quasiment que, de l'émancipation des femmes, de leur rapport au corps,
Que je sais pas non plus, mais en tout cas, on en parle, c'est sûr. Moi, je tiens une position, enfin, je le dis d'ailleurs dans le livre, je sais pas ce que signifie être une femme, et je tiens au caractère ouvert de cette affirmation, je revendique une forme de transformation perpétuelle de soi, femme, homme, peu importe finalement, parce que c'est pas à travers le prisme du genre, paradoxalement, que je propose cette réflexion de transformation de soi, c'est le but aussi de ce livre, et je me méfie des catégories qui enferment, et souvent imposer un contenu au mot de femme, c'est aussi coller une étiquette dans laquelle je me retrouve pas forcément toujours. J'en appelle aussi une forme de dédramatisation de ces étiquettes qu'on a tendance à solenniser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière. C'est le rapport au corps, mais homme comme femme. En l'occurrence, je suis une femme, donc je parle de mon expérience.
Et pourtant, on peut lire le livre, même quand on est un homme, et s'y reconnaître très largement.
C'est une bonne nouvelle.
Gilles, il reste très très peu de temps.
Oui, une question légère pour terminer. Alors, c'est quoi votre problème avec les jeux de société? Natacha Polony disait tout à l'heure que le loisir des Français préféré, c'est le jardinage. Pendant le confinement, ça a été les jeux de société. Alors, manifestement, vous avez un problème avec les jeux de société.
Oui, j'ai un problème avec les jeux de société, c'est vrai. Je ne peux pas le cacher. Ce qui me gêne dans le jeu de société, c'est la dimension d'injonction. C'est que souvent, le jeu de société arrive, on est ensemble, je sais pas, c'est un dimanche après-midi, il est 15h, l'heure où tout le monde s'ennuie, on se dit tiens, on va faire un jeu. Et il y a, ça devient presque un passage obligé pour célébrer le plaisir d'être ensemble, alors que je n'ai pas besoin du jeu pour être heureuse d'être avec les autres, et peut-être que j'ai envie d'être seule avec les autres. Le jeu impose de se rassembler, et surtout perpétue et recrée des nouvelles lois, comme si celles de la société dans laquelle nous vivons n'étaient pas déjà difficiles parfois de composer avec. Il faut faire comme si il y avait des nouvelles règles. Et finalement, ça fait souvent sortir le pire des individus, parce qu'on se dit, du moment que je respecte les règles, je peux dire ce que je veux.
C'est
et là,
peut-être
si c'est un spectacle terrible.
Parce que vous êtes nul au Uno, en fait.
Peut-être parce que je perds tout le temps. En plus, je suis pas très mauvaise joueuse.
À mon avis, c'est la seule explication. Comme vous le citez d'ailleurs, le philosophe Rosset, le secret des choses, c'est qu'il n'y a pas de secret.
Ouais, c'est ce que disait Clément Rosset, mais je suis, ouais. C'est, d'ailleurs, ça pourrait expliquer tout le livre. Hein.
Exactement. Merci, en tout cas. La vie ordinaire, Adèle Van Rett. C'est passionnant. Et on vous retrouve évidemment sur France Culture. Le livre, lui, est en librairie. Défendons les libraires indépendants, ils ont rouvert, ils sont déconfinés et ils nous attendent. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Purari qui a préparé cette émission, à la réalisation Coy Nguyen, à la technique Loïc Frapsos et Tristan Gratalou. À suivre sur Inter, le journal.